de maladies et de causes qui ailleurs les personnes seraient sauvées, ça c'est clair. Donc c'est un ensemble, ressources humaines, infrastructures, formation, et vision, monitoring, sanctions.
Des sanctions contre les mauvais agents.
Quand les gens ne font pas le travail pour lequel ils sont payés, sanctions, tout ça mis ensemble fait que si tout ça était amélioré, je suis sûre qu'il y aurait un mieux dans la mortalité de notre population.
La Fondation a mis en place un grand laboratoire. Quel est l'impact de ce laboratoire au sein de la population et dans le milieu scientifique africain?
Au sein de la population, je ne dirais pas que l'impact est visible pour le moment parce que nous formons par exemple des jeunes docteurs.
Former un docteur, ça demande beaucoup de temps. C'est un investissement à long terme.
La formation d'un docteur, c'est au minimum 3 ans, maximum 5 ans. Donc c'est un investissement sur le long terme. Et ensuite, il va travailler et là devient productif.
Combien de docteurs avez-vous déjà formés, si vous pouvez connaître le nombre ou de façon approximative?
Nous avons maintenant formé plus d'une dizaine de jeunes docteurs congolais qui sont déployés dans le pays. Et c'est un nouvel esprit que nous insufflons. Donc pour moi, je pense qu'on commencera à voir l'impact de la fondation dans les 5-10 prochaines années. Oui, on se rendra compte, tiens, j'ai été formée à un moment donné ou à un autre par la Fondation congolaise pour la recherche médicale et j'agis de telle manière parce que c'est ça ma formation.
Quel est le profit des personnes que vous formez? Seulement des scientifiques?
Nous formons pas seulement scientifiquement, mais aussi moralement, en faisant comprendre quelle est notre responsabilité. C'est-à-dire que les moyens que nous mettons sur la tête de nos étudiants, on leur dit que ce n'est pas pour leurs beaux yeux, c'est pour pouvoir rendre ça, pas à la fondation, mais c'est rendre cet investissement au pays. Et ça, ils le comprennent bien. Et je pense que quand nous aurons comme ça une centaine, 200, plusieurs formés avec cet esprit, l'impact alors sera visible, surtout qu'ils sont compétitifs, ils seront capables d'aller chercher l'argent. Là, moi, je suis, entre guillemets, seule dans cet exercice. Mais imaginons qu'il y ait une centaine comme ça. Bah, après, on aurait beaucoup, beaucoup de possibilités dans le pays.
Vous faites aussi un travail de sensibilisation sur les filières scientifiques. Qu'est-ce que ça donne comme résultat?
Déjà, avec notre programme Femmes et Sciences, la visibilité que nous mettons sur la recherche, l'impact est déjà là. Beaucoup de jeunes gens sont de plus en plus conscients et veulent se lancer dans la recherche. Donc là, déjà, il y a un impact dans l'intérêt, dans la volonté de vouloir s'engager dans la recherche. Donc je pense que là, nous voyons une courbe qui croît. On a une progression vraiment importante des demandes, même on ne peut pas les satisfaire toutes, mais on voit les demandes, on voit l'intérêt même des parents qui viennent poser des questions, qui veulent qu'on conseille leurs enfants. Donc l'impact est là.
C'est très intéressant que les gens viennent vous voir maintenant, mais du coup, ça veut dire qu'avant, ce n'était pas comme ça.
Il y avait peu de jeunes intéressés à la recherche biomédicale, et pas qu'à la recherche biomédicale, à la recherche tout court. Bah, parce que déjà, à l'image du chercheur au Congo, c'est un pauvre le chercheur. Il fait pitié le chercheur au Congo. Il a un salaire de misère. Il fait plus de 10 ans d'études, mais il a un salaire de misère. Personne n'a envie de faire 10 ans d'études et ressembler à un miséreux. Alors qu'un médecin, pour le même nombre d'années, le métier est valorisé. Un scientifique, pour le même nombre d'années, voire plus, c'est un métier peu valorisé. Il n'a pas les moyens, on ne lui donne pas les moyens de travailler, on ne lui donne pas le salaire en reconnaissance de sa formation. Pensez-vous que cela donne envie? Bien sûr que non. Donc il fallait donner une image positive de ce métier et c'est ce que la Fondation congolaise a essayé de faire.
Dans la pratique, comment se passe cette valorisation? Comment vous y prenez-vous pour valoriser les filières scientifiques ou la recherche médicale?
En donnant à ceux qui travaillent, en tout cas à la Fondation, un salaire décent qui leur permette de vivre correctement et de montrer qu'on peut s'épanouir dans la recherche au Congo. Mais pour ça, il faut savoir aller chercher ces financements en attendant que le pays puisse mettre sur la table les moyens que l'on met réellement sur la table d'un chercheur pour qu'il réponde aux besoins du pays. Il fallait se redonner une image positive. Bon, moi, je suis venue de l'extérieur avec cette image positive parce qu'on ne s'engage pas dans la recherche pour être milliardaire.
Ça serait donc par passion?
Oui, il faut aller dans la recherche privée, dans l'industrie pharmaceutique. Mais on ne va pas à l'université ou dans une institution de recherche pour être riche, non. C'est parce qu'on est passionné par la recherche. Mais on peut être passionné, mais pour autant, on veut pouvoir nourrir sa famille. On veut pouvoir vivre décemment de son travail. Donc ça, c'était important de montrer que c'était possible de vivre décemment au Congo en étant scientifique. Mais il faut que le pays puisse encourager correctement ces scientifiques.
Comment pourrait-on encourager les jeunes à embrasser des domaines comme la recherche médicale?
Pour les encourager correctement, il faut qu'ils aient compris quel est le poids du chercheur. Parce que là, le chercheur était minimisé parce que je pense que nos autorités ne mesurent pas ou ne mesuraient pas l'importance du scientifique. Dans le monde entier, ailleurs, tous les pays industrialisés ont compris. La Chine a progressé très vite. Pourquoi? Mais parce qu'elle a su faire revenir tous ces scientifiques formés aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez bien que vous allez dans les laboratoires, les trois quarts, il y a beaucoup d'Asiatiques. Et ce sont eux qui tiennent les labos, c'est eux la connaissance. Si on sait faire revenir sa diaspora, qui a une très bonne connaissance, mais cette diaspora va faire un bond dans le pays.
Et cela pourrait booster les progrès.
Et quand si on leur met les moyens d'utiliser ce qu'ils ont appris ailleurs, les progrès vont aller extrêmement vite. Les autres ont compris ça, donc il faut faire revenir les scientifiques congolais qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, pour qu'ils viennent appliquer ce qu'ils ont appris là-bas, ici.
Comment s'y prendre pour attirer ces scientifiques qui sont à l'extérieur?
Pour les attirer, il faut qu'ils puissent nourrir leur famille. Il faut qu'ils puissent vivre correctement. Sinon, personne ne viendra, bien entendu. Personne. Les gens, quand même, veulent vivre correctement. Ils n'ont pas fait 15 ans, 10 ans d'études pour vivre comme des mendiants. C'est pas possible. C'est pas possible.
Ça fait 10 ans, presque 11 ans, que la Fondation congolaise pour la recherche médicale existe. Quels sont vos projets d'avenir?
Les projets, c'est continuer, c'est augmenter. Nous mettons en place des équipes multidisciplinaires. Par exemple, on a formé un bioinformaticien. C'est le premier bioinformaticien formé. Nous voulons que lui puisse former plusieurs bioinformaticiens, plusieurs qui aient beaucoup de biostatisticiens en recherche biomédicale et en sciences humaines. Donc, on veut que dans chaque discipline, il y ait une pépinière. Ça, c'est notre vision. Maintenant, au niveau de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, nous avons maintenant un centre de recherche sur les maladies infectieuses qui est soutenu par la Fondation Mérieux.
La Fondation, elle a des partenaires qui la soutiennent financièrement?
De plus en plus de bailleurs de fonds internationaux qui voient que ce que nous faisons un travail de qualité, je voudrais que la Fondation devienne de plus en plus puissante, de plus en plus forte, qu'elle puisse mieux répondre aux besoins, mieux assister le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche, mieux l'appuyer pour pouvoir répondre aux besoins de santé de la population. Parce que, encore une fois, on ne peut pas tout attendre aussi du gouvernement. Quand on regarde la recherche en France, par exemple, que je connais bien, il y a le secteur privé et le secteur gouvernemental, le secteur public. Et il faut que les deux marchent main dans la main. Et il faut qu'au Congo, si on veut que ça fonctionne, il faut la même chose. Je ne vois pas pourquoi dans les pays dits développés, ils ont compris que le secteur public à lui seul ne peut pas s'en sortir et qu'au Congo, le secteur public serait champion et pourrait s'en sortir. Ce n'est pas vrai.
Professeur, quelle est alors votre vision?
Pour moi, la vision, c'est que la Fondation soit de plus en plus forte pour pouvoir jouer encore mieux son rôle, qu'il y ait un impact visible. Je voudrais qu'il y ait un impact visible sur la population, sur la santé de la population congolaise.
Merci beaucoup, professeur. Mais la recherche en général était un domaine plutôt dominé par les hommes. Comment appréciez-vous l'engagement des femmes dans le domaine de la recherche médicale, soit au Congo, soit en Afrique?
Dans la recherche scientifique, en Afrique, il y a environ 30% de femmes. Au Congo, on est à 10-13% selon l'UNESCO. Bon, c'est pas beaucoup, c'est très faible. On est parmi les derniers. Donc, l'engagement des femmes dans les sciences est encore faible. Il y a un effort, là aussi, les stéréotypes sur les femmes engagées dans les sciences sont négatifs et donc ne donnent pas l'envie aux femmes de s'engager. Et là aussi, il faut donc casser ces stéréotypes et la Fondation congolaise pour la recherche médicale s'y emploie.
Comment vous y prenez-vous?
en menant des campagnes de sensibilisation au sein de la population, dans les écoles, à l'université, à la télévision, à la radio. Déjà, moi, je suis une femme et je dirige la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale. C'est la première fondation de ce type au Congo, bon, dirigée par une femme.
Un très bel exemple.
Je pense que j'ai montré qu'en tant que femme, j'ai pu, à titre personnel, montrer que j'étais une bonne scientifique. Donc, je montre par mon exemple que c'est possible pour une femme congolaise d'avoir du succès dans les sciences. Et donc ça, c'était important aussi de montrer cela parce qu'en Afrique, il y a un manque cruel de modèles auxquels les jeunes puissent s'identifier. Parce que quand on a 10, 12 ans, on a envie de ressembler à quelqu'un. Nous nous employons à essayer de mettre en lumière les femmes scientifiques pour donner envie aux jeunes filles, aux élèves, aux écolières, de rêver de devenir des femmes scientifiques.
Merci beaucoup, professeur, d'avoir été notre invité pour cette émission.
Ben, c'est moi qui vous remercie pour cet entretien.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
C'était l'interview que nous a accordé le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire. Le professeur Ntoumi est aussi présidente de la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale à Brazzaville au Congo. Elle forme également des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Maintenant, vous allez suivre Carnet de Santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de Santé, déploiement du vaccin COVID-19. Préoccupation au Nigeria concernant une nouvelle flambée du coronavirus. Au Gabon, les autorités sanitaires améliorent l'accès au dépistage gratuit afin d'éviter une deuxième flambée de la maladie. Bonjour et bienvenue, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Cela fait presque un an que la pandémie de coronavirus s'est propagée dans le monde. Le virus qui a infecté des millions de personnes continue de poser un vrai défi au système de santé sur le plan mondial. Les scientifiques ont redoublé d'efforts afin de trouver des solutions adéquates de prévention et traitement. Concernant la prévention, les compagnies pharmaceutiques Pfizer et BioNTech ainsi que Moderna ont publié des données qui montrent que leurs vaccins contre le virus sont efficaces à environ 95%, tandis qu'AstraZeneca affirme que son vaccin aurait jusqu'à 90% d'efficacité. Après approbation, le déploiement massif du vaccin aux États-Unis est lancé. Mohamed Oumfa.
La FDA a finalement approuvé le vaccin de Pfizer et BioNTech contre le COVID-19. Elle pourrait faire de même pour celui de Moderna dans les prochains jours. Mais pour parvenir au point de vaccination, les millions de doses qui doivent être conservées à de très basses températures doivent passer par une gigantesque opération logistique. Certains centres médicaux, comme le Cedar Sinai Medical Center de Californie, sont sollicités.
Le ministère de la Santé allouera une quantité spécifique de vaccins qui nous sera expédiée directement. Nous la stockerons, la sortirons des conteneurs de stockage qui contiennent de la glace sèche et la mettrons directement dans nos congélateurs qui sont dans un emplacement sécurisé et surveillé à distance pour s'assurer que ces doses restent à la bonne température.
Le gouvernement américain a précommandé 100 millions de doses du vaccin de Pfizer et BioNTech, mais la demande est telle qu'il faut commencer par vacciner les groupes dits prioritaires.
Le ministère de la Santé nous dirait qui devra recevoir le vaccin en premier et quelles sont les priorités, que ce soit parmi nos propres agents de santé ou parmi les agents d'autres systèmes de santé.
Les centres américains de prévention et de contrôle des maladies, CDC, conseillent que les pensionnaires des maisons de retraite, soit 3 millions de personnes, et les professionnels du secteur de la santé, environ 21 millions, soient prioritaires. Font également partie de ce groupe les personnes souffrant de maladies chroniques, les plus de 65 ans, et enfin les personnes ne pouvant exercer leur métier à domicile. À moyen ou long terme, pour atteindre une immunité collective, entre 75 et 80% de la population américaine doit être vaccinée, un objectif qui ne sera pas atteint avant les mois de mai ou juin selon les experts.
Malgré l'initiative COVAX de l'OMS visant à garantir l'accès des pays à faible revenu au vaccin COVID-19, des observateurs craignent que de nombreux pays africains ne reçoivent pas suffisamment de doses. Qu'en pensez-vous? Voici certaines de vos réactions sur Facebook. Bolé Lissambé écrit « Le coronavirus n'est pas la maladie la plus mortelle ni la plus contagieuse au monde. » Junior Bompango écrit « Cette question relance le débat sur les capacités électriques et technologiques dans nos pays africains. Bien que l'Afrique soit le continent le moins touché par cette pandémie, son vaccin semble être une lumière au bout du tunnel. Nous devons par conséquent réfléchir aux moyens logistiques avant qu'il ne soit trop tard. » Et enfin, Samuel Nzambe répond « Est-ce que l'Afrique a vraiment besoin de ce vaccin ? » Docteur Richard Mirigo est responsable adjoint des incidents pour les interventions d'urgence au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Il nous en dit plus sur les perspectives du vaccin COVID-19 en Afrique.
Eh bien, vous savez qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur cette maladie. Nous avons eu la chance en Afrique sur la façon dont les gens ont réagi et répondu à ce virus. Mais la pandémie a eu des conséquences dans de nombreux domaines, non seulement le secteur de la santé, mais aussi l'économie qui s'est effondrée. Les voyages ont été suspendus. La vie elle-même a été complètement perturbée. La vaccination sera donc quelque chose qui va rassurer certainement les gens qu'ils sont protégés, que l'économie pourra revenir à la normale et qu'on pourra reprendre un minimum de vie normale. Nous pensons que même si le niveau d'infection n'est pas si élevé en Afrique, le vaccin viendra apporter un arsenal supplémentaire dans la mesure de protection qui a été déjà mise en place et aidera vraiment à une reprise rapide de notre économie, mais aussi à faire en sorte que le système de santé puisse fonctionner maintenant sans autant de pression que ce que nous constatons actuellement. Le virus est le même. Il est vrai que la façon dont les gens réagissent peut différer d'un endroit à un autre. Ce que nous préconisons, c'est vraiment de nous assurer qu'un essai clinique pour ces différents vaccins contre le virus puisse également avoir lieu en Afrique, que l'écosystème dans lequel nous évoluons, la particularité des personnes et de la population en Afrique soit prise en compte lors de ces essais cliniques. Nous avons quelques essais cliniques actuellement en cours en Afrique du Sud avec le vaccin produit par AstraZeneca et l'Université d'Oxford. Des essais cliniques supplémentaires sont également en cours de planification en Afrique par Johnson & Johnson Novavax. Et je pense que ce sont de très, très bons développements parce que ces essais cliniques fourniront des données critiques sur la façon dont ces vaccins se comportent réellement dans la population africaine.
Are actually behaving in African population.
Comme nous l'avons mentionné, le coronavirus, qui a infecté des milliers de personnes dans le monde, continue de poser un grave problème de santé publique et certains pays pourraient connaître une deuxième vague. Au Nigeria, les autorités craignent une autre flambée de la maladie car des millions de personnes ignorent les mesures de sécurité telles que le port de masque et la distanciation physique. Reportage de Timothée Obiezu avec le récit de Mohamedou Mfa.
La pandémie de coronavirus est probablement la moindre des préoccupations pour les milliers de personnes qui achètent ou vendent quotidiennement dans ce marché d'Abuja. En mars, ce marché était parmi les nombreux commerces fermés dans la ville pour empêcher la propagation du COVID-19. Depuis la réouverture, de nombreux commerçants ici disent qu'ils essaient de compenser leurs pertes ou simplement de survivre. D'ailleurs, certains comme le boucher Martin Olea doutent que le coronavirus ait jamais existé.
Nous ne savons pas ce qu'est le coronavirus. Nous ne l'avons pas vu. Le Nigeria n'est pas concerné par cela. Dieu ne le permettra pas.
Le Nigeria a pourtant enregistré plus de 67 000 cas de coronavirus depuis le mois de février. Le pays a atteint son pic d'infection entre juillet et août, puis a enregistré une tendance à la baisse. Mais les responsables affirment que les infections ont recommencé à augmenter en novembre, à une période où de nombreux pays du monde luttent également contre une deuxième vague du virus. Les autorités craignent que de nombreux citoyens nigérians, en particulier les plus jeunes, ne soient plus vigilants.
Les hommes âgés de plus de 21 ans et de moins de 50 ans sont les plus susceptibles de ne pas adhérer au protocole de prévention du Covid-19, car ce sont généralement eux qui ne présentent pas les symptômes graves. Mais ils sont susceptibles de transmettre la maladie au groupe de personnes âgées vulnérables et aux personnes souffrant d'autres maladies qui pourraient en mourir.
Les experts affirment que les manifestations contre les violences policières du mois dernier ont peut-être contribué à cette nouvelle montée des cas. L'utilisation et les ventes des masques faciaux et des gants ont également considérablement baissé. Les autorités tentent d'éviter d'imposer de nouvelles restrictions et exhortent les citoyens à respecter les mesures barrières. La semaine dernière, l'Institut des statistiques du Nigeria a annoncé que le pays était en récession après que son économie s'est contractée de 3,6% en raison des bouleversements dus au Covid-19. Les autorités espèrent que l'économie commencera à se redresser au début de l'année prochaine, mais ajoutent que les citoyens doivent assumer leurs responsabilités.
Au Gabon, le gouvernement prépare la riposte contre une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus. Depuis plus de 3 semaines, Libreville organise des dépistages volontaires et gratuits, une campagne pour tous, sauf pour les voyageurs qui doivent payer les tarifs habituels. Malgré tout, le nouveau laboratoire de dépistage ne désemplit pas. Voici un reportage de notre correspondant Ismaël Obiangze, réalisé à Libreville au début du mois.
Les Gabonais sont de plus en plus nombreux à vouloir se faire dépister au Covid-19. Pour preuve, le laboratoire professeur Gaouma, destiné à réaliser 10 000 tests jour, fonctionne à flux tendu. À l'intérieur comme à l'extérieur du site, c'est l'embouteillage. Et ce, dès les premières heures de la matinée. Il faut donc se lever tôt pour être vite servi.
C'est là depuis 5 heures du matin. Sans que je suis ici, j'attends.
On ne peut pas s'hasarder à aller faire les tests du coronavirus dans différents quartiers parce qu'on ne sait pas si c'est validé là-bas.
Mais dans les principaux carrefours de Libreville, où on teste depuis plus d'une semaine, ce n'est pas le cas. Il est même encore possible de faire un test dans la journée pour l'instant. Mais l'attente des résultats du test y est aussi longue.
Là aussi, les résultats sortent en retard peut-être parce qu'il y a un bon suivi, il y a une recherche approfondie.
Organiser cette stratégie de dépistage de masse vise à améliorer la prévention au niveau des populations parfois éloignées des systèmes de santé ou en situation d'urgence. C'est donc une nécessité en cette période pandémique pour le comité de pilotage de lutte contre le coronavirus. Sauf que les informations se contredisent sur l'utilité des tests PCR faits dans les carrefours.
Ce sont les tests qui sont réalisés au niveau du professeur, du laboratoire professeur Gaouma. Ça répond à toutes les normes et donne les mêmes avantages que les tests qui sont faits dans ces structures-là.
Ce même jour, nous assistons au lancement des activités des brigades mixtes Covid-19, dont la mission est de veiller au respect des mesures barrières et des protocoles sanitaires dans les secteurs d'activité à risque.
Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave les mains fréquemment et on utilise un masque en public. Portez-vous bien et à très bientôt.
C'est ici que prend fin notre magazine Santé, votre avenir de cette semaine. Il était consacré à l'impact de la recherche biomédicale en Afrique sur la santé des populations. Nous avons interviewé le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire. Le professeur Ntoumi est aussi présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville au Congo. Elle forme également des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Ensuite, vous avez suivi Carnet de santé présenté par Linor Moudou. Ce rendez-vous santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tiro et de Nelson Lopez qui était à la console. Devant ce micro, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez tout toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555.